Hello, je suis Aurélie Gillard, ton hôte sur Tech Lipstick, le podcast des femmes qui conquièrent la tech. Tous les 15 jours, rejoins-moi pour une conversation avec des femmes inspirantes, qu'elles soient entrepreneurs, ingénieurs ou salariées dans une start-up tech. Nous échangeons sur leur parcours et sur les challenges que nous rencontrons tous dans le monde du travail d'aujourd'hui, et particulièrement en tant que femmes dans la tech. Nous en apprendrons plus aussi sur les différents secteurs de la tech, les opportunités et les challenges de cette industrie. Merci de ton soutien en t'abonnant à cette émission.
Cet épisode est spécial puisque je participe pour la première fois avec Tech Lipstick au Podcaston. Le Podcaston, c'est une initiative qui mobilise plus de 300 podcasteuses et podcasteurs pour soutenir des associations et entreprises qui œuvrent pour le bien commun. Pendant une semaine, nous publions tous un épisode dédié à l'une de ces organisations. Et pour ma première participation, moi, j'ai choisi de soutenir non pas une, mais deux entreprises. Vous avez peut-être déjà découvert l'attitude lors du dernier épisode et cette fois-ci, j'ai l'immense plaisir de recevoir à mon micro la cofondatrice de Au Carré, une entreprise qui aide les demandeurs d'emploi à trouver un emploi en devenant développeur ou développeuse no-code. Jessica, bienvenue sur le podcast.
Merci Aurélie.
Je suis ravie que tu sois là. Alors, on peut quand même dire pour nos auditeurs, un, que j'ai pas de voix, et ça je m'en excuse parce que c'est pas ma tonalité habituelle, et deux, qu'on a eu énormément de mal à arriver dans ce studio. Donc ça a été, on se disait, le numérique c'est super, c'est un studio où on peut accéder uniquement avec le téléphone, des codes, etc. Et avec Jessica, quand on est arrivé devant la porte, les informations pour accéder au bâtiment n'étaient pas disponibles sur la réservation. Donc je n'avais pas le code, je ne pouvais pas déverrouiller la porte. Et on a attendu comme ça pendant 25 minutes avant que quelqu'un daigne nous répondre. On a tout essayé, Instagram, Discord, voilà, pour la petite histoire. Donc toi, ta conclusion, Jessica, là-dessus ?
L'humain est toujours aussi important, malgré le numérique.
Complètement, complètement. Je vais te demander de te présenter déjà.
Oui, avec plaisir. Donc moi, c'est Jessica Weinreb et je suis cofondatrice d'Au Carré. Je vous en dirai un petit peu plus juste après. Voilà, j'ai 38 ans maintenant, mais
Tu les fais pas.
J'allais dire, je les sens pas, c'est dans la tête, apparemment. Voilà, et donc j'ai cofondé cette structure après une reconversion dans l'ESS et dans l'impact. Avant, j'étais dans l'économie ordinaire, comme on dit.
D'accord. Alors, je ne savais pas qu'il y avait ce terme d'économie ordinaire. Mais écoute, en tout cas, félicitations. Moi, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui parce qu'on s'est rencontrés fin 2022 dans la communauté No Code France. Et ça fait un bon moment que je voulais t'inviter. Et là, nous avons une occasion en or de valoriser ce que tu fais avec l'action formidable que tu conduis au quotidien. Sur ton profil LinkedIn, tu dis que tu t'engages pour un numérique responsable, inclusif et accessible à tous. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment ça se traduit ?
Oui. Alors peut-être pour expliquer fait au quotidien chez Au Carré. Donc Au Carré, on est une structure qui accompagne des personnes éloignées de l'emploi au numérique. On est pour ça, donc on a deux activités. La première, c'est celle de la formation. Donc on forme ces personnes-là. Et la deuxième, c'est l'agence. Donc les personnes qu'on forme entrent dans l'agence, sont embauchées dans l'agence en tant que développeurs. Donc les personnes qu'on appelle éloignées de l'emploi, qui sont des personnes invisibles, par exemple des réfugiés, des personnes en situation de handicap, des femmes. Donc on a des profils qui sont assez diversifiés, de tous âges, et qui vont donc rejoindre la structure parce que intéressés par le numérique.
Avant que tu continues, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. Quand tu dis des femmes, est-ce que c'est suite à des situations particulières, à savoir, est-ce que c'est des femmes qui, par exemple, se sont arrêtées et longtemps de travailler ? Est-ce que c'est des femmes qui se retrouvent dans des situations précaires ? Tu peux préciser ?
Oui. Alors, en fait, c'est vrai qu'on catégorise, on donne des noms de catégories pour faciliter la représentation. En fait, l'objectif avec ça, c'est d'accompagner des personnes qui ne se projetteraient pas dans les métiers du numérique, d'accéder à ce secteur d'activité qui est un secteur d'activité avec des opportunités d'emploi aussi. Et donc, les personnes qu'on accueille sont toutes les personnes qui ne suivent pas ce parcours standard. Et donc, les femmes, en fait, ça peut être des femmes qui ont des parcours de vie, leur parcours de vie, en fait, peu importe. Mais je précise les femmes parce qu'on a un volume de femmes qui est dans le numérique qui est moins important que ceux des hommes. Et donc, effectivement, avec cette catégorie des femmes.
Et du coup, vous, ça se retrouve dans la proportion de personnes que vous accompagnez? Vous avez plus de femmes?
Aujourd'hui, on a 44% de femmes.
Alors, ce qui est mieux que le numérique en général. En fait.
Oui, et c'est aussi parce que le no-code permet de se projeter plus facilement sur le numérique. La porte d'entrée par le no-code est plus accessible, finalement. C'est plus facile pour une personne qui a envie d'aller travailler dans le numérique de lui expliquer que, sans avoir besoin de connaître de langage de programmation, il est possible de créer et de produire des solutions numériques. Et pour ça, le no-code, en fait, est un formidable outil pour pouvoir justement accéder à des publics qui sont en dehors des standards d'accessibilité au numérique. Et de la même façon, enfin voilà, je parle des femmes, mais ça peut être je parlais aussi des réfugiés, des personnes en situation de handicap.
Comment vous les accompagnez exactement? Comment ça fonctionne pour eux à partir du moment où ils ont candidaté et vous retenez leur candidature?
Alors, on est en Seine-Saint-Denis et on source nos candidats uniquement sur la Seine-Saint-Denis aujourd'hui. Et donc, ces personnes sont identifiées avec les actions de terrain qu'on mène. On travaille avec les prescripteurs institutionnels, mais aussi toutes les associations sur le terrain, comme Aurore Asso, par exemple, ou l'École de la Deuxième Chance. Et donc, on propose à ces personnes de venir découvrir ce qu'on fait. Et une fois qu'elles postulent, elles rentrent dans un parcours de candidature qui nous permet de tester leur motivation, donc qui est assez long, et où on va aller comprendre le pourquoi la personne postule chez nous, pourquoi elle s'intéresse au no-code, sachant qu'on ne va pas avoir de prérequis, hormis celui de la motivation. Donc c'est également important pour nous de tester ça. Alors, on va tester aussi la logique, hein, bien sûr. La logique, on a un niveau de français minimum requis pour pouvoir échanger avec le groupe et comprendre les consignes. Et donc, une fois que les personnes candidates entrent dans la formation, elles vont intégrer cette formation de 3 mois, qui dure 3 mois, au cours de laquelle elles vont apprendre donc les outils no-code. On démarre par la base, hein, qu'est-ce que le numérique, et on a une montée en compétences qui se fait doucement pour s'assurer de prendre tout le monde avec nous et qu'il n'y ait pas de décrochage.
C'est en présentiel?
C'est en 100% présentiel dans nos locaux à Montreuil. Au bout des 3 mois, les personnes sont en capacité de développer une application complexe qui réponde à un besoin client.
Par exemple, tu peux nous donner un exemple?
Oui, alors là, justement, les personnes qui sont en formation actuellement font un projet, elles ont un projet à faire à l'issue de la formation et elles vont présenter devant un jury. Et tu as des personnes qui ont développé un outil de ticketing, par exemple. Voilà. Ce qui est également très important pour nous, c'est que dès le premier jour de la formation, elles sont accompagnées sur leurs soft skills et leur posture professionnelle. En fait, on a à la fois un accompagnement individuel qu'on va faire avec elles sur la levée de leurs freins périphériques. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon. Enlever tous ces freins qui pourraient les empêcher de retrouver un emploi ou d'accéder à un emploi. Parce que, par exemple, quand on n'a pas un logement ou quand on a une problématique de logement, c'est impossible de se projeter sur un emploi. Donc, on va venir travailler avec elles pour lever ces freins.
J'imagine que tu as une telle charge mentale quand tu es privé de logement que tu es incapable effectivement de penser à autre chose.
Exactement. C'est un exemple. Hein, le logement, il y a d'autres problématiques qui peuvent constituer un frein. Et donc, on va travailler avec elles là-dessus. On va travailler également avec ces personnes sur la construction de leur projet professionnel. Et un autre pan qui est très important, c'est reprendre confiance en soi, qui finalement est souvent ce qui va permettre de retrouver un emploi, et c'est ce qui peut manquer aussi. Donc la confiance en soi, un élément extrêmement important et qu'on va venir travailler dès le début de la formation.
Et quel est votre taux de réussite? Combien de vos accompagnés passent le cap justement de retrouver un emploi?
Donc on a, à l'issue de la formation, on a plusieurs sorties qui se dessinent. La première, c'est elle va être embauchée dans notre agence. Donc, on est une agence de développement aussi.
Donc, on peut vous contacter,
exactement,
faire des projets,
exactement,
des applications numériques.
Okay. Exactement. Donc, l'agence au carré développe pour des clients classiques, donc des entreprises, des associations, des structures qui ont besoin d'outils numériques. Donc l'agence va développer ces outils-là en no-code. Je pourrais t'en dire plus juste après sur les technos qu'on utilise et les projets qu'on prend. Donc sur cette agence, on embauche les personnes qui sortent de la formation et qui souhaitent poursuivre en tant que développeur no-code. L'agence est entreprise d'insertion, donc on a le statut d'entreprise d'insertion. Donc les personnes qu'on embauche dans l'agence sont en contrat d'insertion avec nous pour une durée d'un an. Donc elles poursuivent leur montée en compétences au sein de l'agence, mais avec une posture qui est différente de celle de la formation, puisqu'elles sont salariées de l'agence. Et donc elles ont finalement un statut de salarié, de collaborateur de l'agence, et une posture qui est différente. Elles poursuivent leur montée en compétences, elles se créent un portefeuille client qu'elles vont pouvoir montrer aux recruteurs qu'elles vont contacter au bout de l'année avec nous, et se constituer à la fois un réseau avec d'autres salariés, au niveau de un réseau au sein du no-code aussi,
de la communauté,
voilà,
ouais.
La communauté no-code, et rencontrer des clients. Donc c'est la poursuite de la montée en compétences. Elles sont toujours accompagnées par notre conseiller d'insertion professionnelle qui va travailler avec elles sur la levée des freins périphériques dont on parlait tout à l'heure, et aussi la construction du projet pro avec l'identification de la poursuite de leur parcours à la fin du contrat avec l'agence. Donc ça, c'est une des possibilités. On a également remarqué que beaucoup de personnes qui démarrent la formation, à la fin de la formation, souhaitent poursuivre dans le numérique sur un métier ou continuer leur montée en compétences sur, par exemple, un langage de programmation.
D'accord.
Donc, on s'est rendu compte qu'on avait des personnes comme ça qui entraient par le no-code et qui se rendaient compte, ou en tout cas qui découvraient la possibilité de poursuivre dans le numérique. Et finalement, le no-code était une porte d'entrée, un sas d'entrée et un tremplin pour aller vers un métier
encore plus spécialisé.
Voilà, plus spécialisé.
Et là, vous avez des partenariats avec d'autres organismes de formation pour qu'ils aillent plus loin.
Tout à fait. En fait, on poursuit l'accompagnement au-delà de la formation. Donc, on a notre conseil d'insertion professionnelle qui continue l'accompagnement. Enfin, on ne les lâche pas à la fin de la formation. Et l'objectif, c'est de les accompagner sur l'accomplissement de leur projet professionnel. Et donc, on a des partenariats avec des formations, avec des entreprises aussi
qui les prennent en alternance.
Des entreprises de l'insertion sociale, des SIAE, des entreprises dans l'insertion professionnelle, et qui vont pouvoir leur permettre de faire une poursuite de leur projet dans le contexte de l'IAE.
Vous accompagnez combien de personnes?
Donc on a des formations qui sont de 13 personnes, enfin, pardon, sa formation de 16 personnes maximum, 100% présentiel. Et on a 3 formations par an.
D'accord.
Alors, on est assez jeune, hein, on s'est créé en avril 2022 au carré. Donc, on atteint maintenant un rythme de croisière. Et donc, effectivement, notre objectif,
c'est cinquantaine de personnes par an. D'accord. Et vous auriez besoin peut-être de créer une autre antenne quelque part
Alors oui, là, on est quand même assez jeune et on est en pleine croissance. L'objectif, c'est effectivement de pouvoir ouvrir des antennes dans d'autres villes, là où il y a des besoins aussi d'accompagner des personnes qui pourraient se diriger dans le numérique.
Je me demandais, je voulais te poser la question depuis tout à l'heure, au carré, pourquoi ce nom ?
Alors, au carré, pourquoi ? Parce que c'est pas parce que c'est des personnes qui sont en insertion que nos projets ne sont pas carrés. Donc ça, c'est la première explication, et aussi parce que c'est une expression de jeunes, de dire que c'est carré. Donc voilà, on voulait rester à la fois avoir un nom qui soit évocateur du numérique avec la racine carrée. Voilà. Donc,
D'accord, ça marche, super nom. Pour les entreprises qui voudraient travailler avec vous, quel projet est-ce qu'on peut demander à Ocarré ?
Et donc pour l'entreprise cliente qui travaille avec nous, on va, donc c'est complètement transparent, hein, si on ne dit pas qu'on est entreprise d'insertion, le peut ne pas s'en rendre compte. On va travailler, donc le client va avoir un contact avec un chef de projet chez nous qui va gérer le projet et qui va être le contact avec le client, s'assurer que le livrable soit rendu en temps et en heure, avec de qualité. Derrière, c'est les équipes de développeurs qui sont en contact avec le chef de projet. On propose deux types de prestations. On développe des projets sur mesure avec des outils no-code ou alors on fait de la régie.
D'accord.
Et c'est également une prestation qui est intéressante, surtout pour les entreprises qui ont des projets plus longs ou qui sont sensibles aussi, par exemple, à l'insertion. C'est une manière de pouvoir intégrer des personnes en insertion, des personnes qui veulent répondre à ces critères RSE au sein de leurs équipes, de tester l'intégration dans l'équipe et de les intégrer donc, de manière plus douce, sachant que nous, au carré, portons le contrat avec la personne et pouvons la suivre, l'accompagner aussi pour que l'intégration se passe au mieux.
D'accord. Donc, le message, si on récapitule, je voudrais que tu me dises, déjà, message aux candidats potentiels, des gens qui entendraient cet épisode et qui se disent qu'eux, ils aimeraient bien, effectivement, voir la formation. Donc, il faut aller sur le site de Au Carré.
Oui.
Point tech. Alors, point tech. Et remplir un dossier, j'imagine, pour... Et c'est que sur le 93.
Oui. Donc, les candidats, pour les candidats, c'est si vous êtes tout type de profil, que vous habitez dans le 93, vous pouvez postuler sur le site. Donc, le site, c'est aucarré.tech. Il y a un formulaire de candidature qui est accessible. Il est également possible de postuler avec son conseiller Pôle emploi, par exemple.
D'accord.
Ou mission locale, ou Cap emploi, voilà, selon le profil. Donc, la candidature peut se faire aussi par le prescripteur.
Okay.
La personne peut être accompagnée. On est également très disponible par téléphone, par mail, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter, puisque pour nous, l'accompagnement humain est central et on adapte notre accompagnement à la personne qu'on a en face aussi et à ses difficultés. Côté entreprise, donc vous avez un besoin de développement en no-code ou que vous cherchez des ressources.
En fait, c'est développement en no-code, c'est plus si vous avez un besoin de résoudre une question, une problématique et vous pensez que le numérique peut vous aider à faire ça. Oui. Parce que finalement, les outils derrière que vous utilisez, on sait qu'ils sont rapides, pas coûteux par rapport à des solutions plus comme un ERP ou autre. Oui. Agile, voilà, c'est tout l'avantage du no-code. Vous allez pouvoir itérer, faire plein de choses comme ça super facilement. Vous allez avoir un projet qui va durer 3 fois moins de temps pour un coût bien moindre qu'un projet classique en entreprise. Et donc, si ce besoin-là, vous l'avez, vous pouvez contacter Au Carré avec votre cahier des charges et discuter.
Exactement. C'est vrai qu'on n'a pas fait l'explication du no-code parce que c'est un terme qui devient de plus en plus utilisé. Et beaucoup de personnes utilisent du no-code sans savoir que c'est du no-code.
Absolument.
Et effectivement, et d'ailleurs, c'est par le no-code qu'on s'est rencontrés toutes les deux. Donc, le no-code, par exemple, les outils les plus connus, enfin, je vais en citer quelques-uns. Ça peut être Airtable, qui fait de la base de données. Ça peut être Bubble. On peut travailler avec Webflow, par exemple, aussi. Donc, il y a énormément d'outils no-code qui répondent à énormément de besoins.
Et si on va même... Plus en amont pour des outils même plus grand public, on a du Notion, du Canva. En fait, tous ces outils avec lesquels on arrive à faire des choses qui auparavant requéraient de recourir à du développement du codage informatique et qui sont rendus accessibles grâce au travail des éditeurs qui le rendent extrêmement fluide et extrêmement simple pour des personnes qui n'ont aucune notion de programmation.
Exactement. D'où le nouveau terme citizen developer qui s'est créé aussi avec... Tout un chacun peut et en capacité de créer et de développer des outils qui répondent à un besoin. Et à partir de là, il y a eu de plus en plus d'entreprises qui utilisent ces outils-là aussi pour leur activité. Parce que, comme tu le disais juste avant, c'est des outils qui permettent un développement plus rapide qu'en passant par du code, par un développement en code. Les outils Les outils no-code permettent de développer de manière beaucoup plus rapide puisqu'il n'y a plus besoin d'écrire, enfin de rentrer dans un langage de programmation, d'écrire de langage de programmation pour développer. Il y a également énormément de flexibilité puisque ça fonctionne comme des briques qui sont précodées et qu'on imbrique entre elles pour avoir la solution complète. Et sur mesure, c'est aussi un avantage, c'est qu'il
est possible complètement de personnaliser
totalement l'outil. Et le fait de gagner du temps dans le développement rend le développement moins cher, moins coûteux que de passer par un développement en langage de programmation.
Et surtout, la rapidité d'exécution fait que, au lieu d'écrire un cahier des charges qui, 6 mois après, n'est plus valable parce qu'en fait, les besoins ont évolué, là, tu travailles vraiment en direct avec les clients.
On va répondre aux besoins des entreprises qui vont, par exemple, avoir besoin d'automatiser, qui ont beaucoup de fichiers Excel, beaucoup de copier-coller, qui ont besoin d'automatiser des process. Donc le no-code, pour ça, le no-code tel qu'on l'utilise chez Ocarré va être extrêmement utile et on va pouvoir développer des solutions avec ça. Pareil pour tout ce qui est applications mobiles, applications web et sur la régie, donc c'est des personnes qui sont mises à disposition de nos clients.
Pour des projets plus complexes.
Oui, ou alors des projets qui sont plus longs dans la durée, qui requièrent d'avoir quelqu'un disponible régulièrement.
Ça marche. Comment vous vivez l'arrivée de l'IA générative ? Est-ce que vous allez devoir intégrer cette brique-là, ces formations-là, dans votre cursus ?
On voit l'arrivée de l'IA comme une opportunité. Le numérique bouge très vite. Il faut s'adapter, il faut prendre les opportunités quand elles existent. Et pour nous, l'IA, effectivement, est une opportunité dont il faut se saisir et s'accorder aussi. Et il faut le faire de manière intelligente et construite et voir comment on l'intègre pour que ça serve les personnes qu'on accompagne, comment ça serve un accès à l'emploi plus important et non pas intégrer l'IA juste parce que c'est de l'IA.
Donc, pour contacter Jessica et son équipe, c'est sur aucarré.tech. Merci beaucoup, Jessica. Avant que nous terminions, j'ai une question perso parce que j'ai pu voir que tu avais la volonté de permettre à toute organisation de se digitaliser de manière flexible, à moindre coût et de manière qualitative. C'est avec cette idée-là que tu as cofondé Ocarré en 2022. Donc, ça résume bien, je pense, ce qu'on vient de se dire. D'où se vient ce désir d'aider les autres ? Alors qu'au départ, je crois que tu as démarré ta carrière dans l'automobile, donc absolument rien à voir.
C'est peut-être là qu'a démarré cette volonté. Après, comment répondre à cette question de manière synthétique Ça vient parler de mes valeurs, en fait, qui je suis et ce qui me motive. En fait, je me dis que mon temps est ma principale ressource. Et c'est ce que je vends quand je travaille. Quand je travaillais effectivement dans l'automobile, c'est ce que je vendais, mon temps. Et j'avais un salaire pour ça. Et dans ma démarche d'arriver jusqu'à Ocarré, dans cette démarche-là, je me disais, mais le temps que je donne, que je vends finalement, doit être un temps qui correspond à mes valeurs et à qui je suis et à ce que je veux pour le monde dans lequel je vis. Et donc c'était important pour moi d'être alignée avec... avec ce que je donne à la société finalement, à ce temps-là. Et c'est pour ça que voilà, je suis allée dans cette direction.
Tu te sens épanouie, tu ne regrettes pas ton choix.
Non, au contraire. Les a priori qu'on peut avoir sur l'insertion sont complètement revus quand on travaille dans l'insertion, parce que c'est des personnes qui sont très... compétentes, motivées, qui ont énormément d'envie de travailler aussi. Et bien sûr que non, je regrette pas du tout. Enfin, au contraire, c'est valorisant pour moi, extrêmement valorisant pour moi de travailler pour ces personnes et de pouvoir mettre à contribution une partie de ce que je peux... Enfin, comment je peux le dire,
c'est... Contribution, ton cerveau, ton énergie, ton temps, tout ce que tu donnes, en fait, c'est génial.
Oui, c'est ça. Et c'est finalement, en fait, ce que je veux expliquer, c'est ce à quoi j'ai pu accéder en travaillant dans d'autres structures auparavant, en découvrant le no-code, en travaillant dans le numérique. et auxquels les personnes qu'on accompagne chez Ocaré n'ont pas pu accéder, finalement, en faisant cette démarche, j'ouvre un peu ces portes-là et j'essaye de donner le peu que je peux donner à ces personnes.
Et c'est déjà beaucoup.
Et voilà, et en échange, c'est énorme, quoi. Ce que je reçois, c'est
super.
Énorme.
Bravo. Merci. À toi. Merci beaucoup d'avoir partagé ce que Ocaré peut faire pour aider les entreprises à se digitaliser tout en aidant des personnes à se réinsérer sur le marché du travail. Chères auditrices et auditeurs, j'espère que vous avez aimé cette discussion et surtout que vous aurez envie d'aider Ocaré dans sa mission en lui confiant peut-être votre prochain chantier digital. Donc, je vous encourage à visiter le site d'ocaré.tech et puis le site de podcaston.org pour découvrir des centaines d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. Vous avez la possibilité de faire des dons également à travers le site. Je vous retrouve dans 15 jours pour l'interview exceptionnelle d'une femme de l'IA. D'ici là, portez-vous bien et n'arrêtez jamais d'explorer.